Bonjour, bienvenue au podcast J'ai des questions. Je m'appelle Mindy et aujourd'hui, je suis heureuse de partager avec vous la conversation que nos animatrices Christina et Elisabeth ont eue avec Jean-Sébastien Morin au sujet de l'enfer. Jean-Sébastien Morin est pasteur, auteur et conférencier. Il est titulaire d'une maîtrise en théologie et d'une maîtrise en philosophie et il enseigne dans plusieurs séminaires bibliques québécois. Il est l'animateur du podcast « La foi vient de ce que l'on entend » et il travaille actuellement avec son épouse Katie sur un projet de curriculum vidéo pour adolescents qui répond aux grandes questions lancées à la foi chrétienne. C'est pour ça qu'on trouvait qu'il était la bonne personne pour répondre avec nous à la question « Est-ce que l'enfer existe vraiment? » Quelles sont les différentes perspectives chrétiennes sur l'enfer? En quoi est-ce que nos croyances sur l'enfer ont un impact logique sur le reste de nos croyances? Qu'est-ce qui devrait motiver notre compréhension de l'enfer? C'est le genre de questions qu'on se pose dans cet épisode de J'ai des questions. Juste une petite note que ceci est la première partie de notre conversation. La deuxième partie a été publiée séparément et on vous invite à l'écouter par la suite.
Bonjour et bienvenue au podcast J'ai des questions. Je m'appelle Christina et je suis accompagnée de ma co-animatrice Elisabeth. Bienvenue, Élie.
Merci de m'inviter.
Bon, le sujet d'aujourd'hui, c'est pas un sujet qui me remplit d'enthousiasme, mais je suis enthousiaste par rapport à notre invité, Jean-Sébastien. Merci d'être venu nous aider à comprendre un sujet assez complexe.
Ouais, plaisir d'être ici. Je suis d'accord avec toi que si quelqu'un était trop enthousiaste avec notre sujet, je pense qu'il y aurait un problème là, en partant. Là.
Ben, c'est ça que je me demandais, tu sais, est-ce que je suis la seule qui trouve que le sujet de l'enfer est un sujet compliqué, peut-être un peu malaisant, peut-être je suis la seule?
Non, t'es pas la seule.
Tu sais, C.S. Lewis disait, l'auteur des Chroniques de Narnia, il disait, s'il y avait une doctrine qui pouvait effacer, s'il y avait une efface magique qui pouvait effacer une doctrine de l'Écriture, ça serait celle de l'enfer, mais il venait quand même à la conclusion qu'on doit quand même dealer avec parce qu'elle est présente dans l'Écriture. Mm-hmm. Si on veut être fidèle envers l'Écriture, ben c'est le malaise avec lequel là, la danse qu'on va devoir jongler.
Ben vous me rassurez un peu. Pour avoir fait maintenant plusieurs épisodes de J'ai des questions, je réfléchissais un peu à ça, puis je me rendais compte que le sujet de l'enfer était probablement celui que j'appréhendais le plus. Parce que j'y ai pas beaucoup pensé, en fait. J'y ai pas beaucoup pensé parce que je change le sujet assez rapidement quand on en parle. Mais là, il y a un membre de notre audience qui nous a encouragés d'aborder ce sujet. Puis le principe de notre podcast, c'est qu'on ose poser nos questions. Alors, je prends mon courage à deux mains, puis je vous approche. Donc, merci beaucoup pour votre patience et aussi pour votre approche. Jean-Sébastien, c'est pas la première fois qu'on t'invite sur le podcast. Alors, je suis quand même si je suis un peu nerveuse, je suis assez confiante que je suis bien accueillie aujourd'hui.
Non, mais merci de la confiance aussi. Hein. C'est pas un sujet facile. Puis j'espère que les auditeurs pourront sortir avec des pistes de réflexion. Ou je pense que les gens évitent d'y penser, parce qu'on veut pas y penser, parce qu'on se dit, ben c'est quoi les conséquences d'avoir un enfer, un jugement dans une société qui aime pas beaucoup juger. En fait, la société aime beaucoup juger et critiquer, mais pas que ça aille les conséquences qu'une éternité a. Ou qu'est-ce que ça veut dire d'une destinée éternelle. Fait que c'est des questions que, même en tant que chrétien, on aime de moins en moins se poser. Puis que l'Église adresse de moins en moins aussi. Si on réfléchit même dans nos églises, c'est quand la dernière fois qu'on a parlé sur l'enfer dans les prédications, tout ça, tu te rends compte que hey, ça a peut-être même passé plusieurs années avant même qu'on aille réadresser un texte ou un passage qui traite de ça.
Ben, lançons-nous. L'enfer. La question qu'on a, c'est est-ce que l'enfer est un lieu réel? J'aimerais commencer par explorer finalement, c'est quoi les différentes perspectives qu'ont les chrétiens sur l'enfer? Est-ce qu'il y en a juste une seule ou les chrétiens peuvent avoir différentes perspectives sur ce sujet-là?
La question est bonne parce que bon, est-ce que les chrétiens, en guillemets, peuvent avoir plusieurs perspectives? Puis c'est une des questions qui est reliée à la question de l'enfer. Est-ce que si tu as une autre compréhension du jugement ou de l'enfer, est-ce que tu es encore à l'intérieur de ce qu'on appelle l'orthodoxie chrétienne? L'orthodoxie chrétienne, ça veut dire essentiellement la bonne doctrine. Il y a des doctrines fondamentales, par exemple, comme la Trinité, où tu dis, ben ça, c'est une doctrine fondamentale, ou si tu crois pas à la Trinité, mais tu vas être considéré à l'extérieur de l'orthodoxie chrétienne.
Oui.
Fait que oui, il y a des perspectives. Par exemple, il y a une perspective qu'on appelle l'universalisme, qui est peut-être celle qui est le plus clairement à l'extérieur, qui dit que tout le monde va être sauvé. Dieu est bon. Il y a une version chrétienne, une version non chrétienne de ça, mais Dieu est tellement bon et Dieu est tellement amour que Dieu ne peut pas faire autrement que de sauver tout le monde. Fait que t'as eu des chrétiens au travers de l'histoire qui ont défendu, par exemple, une telle position. Tu en as même eu, même encore plus récemment, un mouvement qui s'est converti, étrangement, un mouvement sectaire qui s'est converti à l'évangéliste, qui était l'Église universelle de Dieu. C'était une de leurs croyances, de dire que Dieu va sauver tout le monde. J'avais des gens dans mon église qui s'occupaient il y avait une autre fonction dans l'Église universelle de Dieu avant de devenir évangélique. Puis, c'était vraiment une lutte pour eux encore, même avec ces passages-là, parce que pour eux, mais non, Dieu va sauver tout le monde. Dieu va forcer tout le monde à être sauvé d'une certaine manière. Fait que tu as plusieurs variantes et chacune des positions qu'on va regarder aujourd'hui ou qui sont présentes dans l'histoire ont des variantes. Donc, c'est pas... Il y a des universalismes, il y a des conditionnalismes, un peu comme l'annihilation, toujours un mot pas facile à dire. Donc, il y a des perspectives, des variantes sur chacune des positions, mais l'universalisme, en bout de ligne, Dieu va sauver tout le monde parce que Dieu est amour. Sauf que ça vient l'idée que Dieu va forcer tout le monde à... certains vont aller jusqu'au point, Origène, par exemple, un des pères de l'Église, ou du moins son disciple qui a révisé certains de ses textes, croyait à ce qu'on appelle l'apocatastase, c'est-à-dire, c'est un mot qui parle du rétablissement de toute chose. Dieu va rétablir toute chose à la version originale. Il fait un factory reset. Et ce que ça veut dire, c'est que le péché n'existe plus. Même le diable se fait faire un genre de factory reset. Et dans la conception de l'universaliste d'Origène, mais tu vas arriver avec cette idée que même le diable va être, à quelque part, sauvé par Dieu avec le temps. Ça nous sort un peu parce qu'on réfléchit universalisme, souvent on inclut les humains, mais on ne penserait pas inclure le diable parce que là, tu dis, mais là, le diable, c'est comme la personnification du mal. c'est comme dire, on n'a pas de problème, tu sais, monsieur, madame, tout le monde vont se retrouver tout au ciel, mais les Hitler de ce monde, puis les pédophiles, puis les violeurs et tout ça, on aurait plus de difficultés à dire... Est-ce qu'eux autres aussi, tu sais, méritent d'être dans cette conception universelle? Fait que l'universalisme, tout le monde va être sauvé en bout de ligne. T'as l'annihilationnisme, ou qui est aussi appelé le conditionnalisme, c'est qu'à un moment donné, oui, il va y avoir un jugement, mais à un moment donné, les gens vont être détruits. Et comme par exemple, tu mets du bois dans le feu, mais à un moment donné, le bois, mais il n'est plus là, il a fini de brûler. Donc, le feu, lui, continue, mais le jugement, lui, continue. Mais à quelque part, la personne, ou ce qu'on appelle, est-ce que la personne est consciemment dans cette éternité, dans des tourments ou dans un enfer? Mais l'annihilationniste va dire non, il y a une limite. Donc, il va avoir un jugement proportionnel. C'est-à-dire que, par exemple, comme si tu vas en prison pour 50 ans, 100 ans, mais de la même manière, mais tu irais dans cette place qui est l'enfer pendant une période qui est en lien avec la gravité de tes péchés ou de tes torts. Fait que t'as des gens comme, par exemple, John Stott, théologien anglican, vers la fin de sa vie, qui va adopter cette position. On en a de plus en plus aujourd'hui. J'avais fait un débat avec Sonny Perron il y a quelques années au Pop Socratique, puis c'est la position qu'il défend, entre autres, qu'il dit, ben oui, il y a un jugement, mais... Il sera temporaire et juste par rapport à ça. Après ça, il y a la position plus traditionnelle que l'enfer est un lieu concret, mais encore une fois, c'est quand on parle où est Dieu. Puis si c'est quelque chose de spirituel, où se trouve l'enfer? Certains pensaient que l'enfer se trouvait dans notre univers au travers de l'histoire, c'est arrivé aussi. Mais c'est un endroit spirituel, pas nécessairement physique. Si on peut dire, mais c'est un endroit où il y a une conscience éternelle de jugement. À l'intérieur de la position traditionnelle, il y a quand même aussi des variantes, c'est-à-dire, par exemple l'image du lac de feu qui est utilisée, par exemple, dans l'Apocalypse, est utilisée aussi dans Matthieu, à plusieurs reprises, là, Jésus l'utilise. Est-ce que c'est un symbole d'une réalité? Comme, par exemple, Jésus va souvent dire « le royaume de Dieu est semblable à... » Puis là, il donne une image sur ça, ça va ressembler à quoi. Mais de la même manière, mais à quelque part, le jugement dernier, mais est-ce que le lac de feu est une image? Mm-hmm. Mais si c'est une image, c'est quand même une image de quelque chose. Je donne l'exemple pour parler du symbolisme, par exemple, dans l'Apocalypse ou dans les Bibles en général. Je dis, par exemple, des fois, je dis aux étudiants, ben, si vous voyez un grand arche doré sur le bord de l'autoroute, qu'est-ce que ça symbolise? Puis, je te posais la question, ça symbolise quoi, cette grande arche dorée? Là? C'est un symbole de notre culture.
McDonald's!
Et ceci n'est pas un placement de produit. mais oui, un McDonald's. Sauf que si tu t'en vas à côté de la pancarte puis que tu demandes un Big Mac, tu ne le recevras pas.
Non.
Parce que c'est un symbole qui pointe à un véritable restaurant qui est à quelque part dans le coin.
Ah.
Fait qu'un symbole, ça t'amène à pointer à une réalité, mais que le symbole n'est pas cette réalité-là. Quand ça dit que Jésus est l'agneau de Dieu, par exemple, et on voit même dans l'Apocalypse, il est littéralement un agneau mené sur le trône, mais ça renvoie à une réalité. Jésus est véritablement l'agneau de Dieu. Mais est-ce qu'il se métamorphose en agneau à un moment donné? Ben, peut-être pas. C'est là le symbolisme et le danger du symbolisme, c'est que les gens vont souvent dire « Ah, parce que c'est juste un symbole ou dans un livre qui est symbolique, alors je peux complètement... pas m'en préoccuper. » Mais non, si c'est un symbole, puis le symbole particulièrement est répété à plusieurs reprises, je sais peut-être pas c'est quoi exactement la forme finale, mais les paraboles sont faites souvent pour te donner une impression, un choc, une émotion. Mais ce que tu entends, c'est que je veux pas être... Peu importe qu'est-ce que c'est, ce jugement-là, ça devrait me dire « Non, mais je veux pas être là. »
En effet.
Puis d'autant plus qu'il y a une porte de sortie. Ça, des fois, on oublie cette réponse-là. C'est oui, ce Dieu-là qui a créé un jugement dernier, mais il a aussi aimé le monde pour donner son fils. Fait que ça va faire partie aussi de l'équation. Mm-hmm. Fait que je dirais, c'est les grands... Il y en a peut-être une autre là, qu'on est moins familier en tant que chrétien évangélique, qui est la question de ce qu'on appelle le purgatoire, par exemple. Mais le purgatoire qui serait une antichambre, c'est comme un genre de pièce où tu attends de voir le médecin, donc une antichambre du ciel où ce que les gens souffrent pendant un bout de temps pour expier leur dernier péché. C'est-à-dire que dans la conception catholique, puis c'est important de le dire, la conception catholique n'est pas que tout le monde va au purgatoire avant d'être sauvé. Le catholicisme n'a pas l'universalisme comme base, c'est seulement les chrétiens, dans leur conception, qui vont dans le purgatoire et qui sont affligés par des péchés mortels ou donc qui ont des péchés assez graves pour devoir être expiés avant d'être amenés en présence de Dieu. Mais tu n'as pas de non-croyants qui vont être dans le purgatoire. Eux, ils s'en vont en enfer dans la conception catholique. Fait que le purgatoire, souvent dans notre imaginaire collectif, mais de toute façon, tout le monde va aller là et ça a été un peu... mis de l'avant avec la réforme, parce qu'on souvent on a répondu au purgatoire. On voit pas en tant qu'évangélique le purgatoire dans l'écriture, mais dans une culture où 100% des gens sont en guillemets catholiques, ben l'idée d'un non-chrétien dans les discussions à la réforme et tout ça, c'est pas vraiment présent. Fait que ça a peut-être donné cette impression que tout le monde va au purgatoire, puis tu sais, on achetait les super indulgences pour en sortir et tout ça. Fait que ça a comme amener notre folklore un peu de dire « Ah, mais tout le monde est sauvé pareil dans la conception catholique, puis c'est une des choses à laquelle on s'est opposé. » Mais non, c'est pas historiquement, là, c'est pas le cas.
Donc, une des choses que je retiens, ou que pour un peu résumer tout ce que tu nous as partagé, Jean-Sébastien, c'est que les différences dans la conception de l'enfer, je vois deux facteurs principalement, et tu me corrigeras s'il y en a d'autres ou tu vas apporter des nuances. Le premier facteur, c'est la durée. L'enfer, combien de temps est-ce que tu vas être là si t'es pas en Jésus, si t'es pas sauvé? Puis le deuxième facteur, c'est comme la portée, si je serais pour le résumer, c'est-à-dire qui va en enfer et est-ce que tu peux en ressortir? Est-ce qu'on peut vider l'enfer? C'est un peu les deux facteurs que je retrouve un petit peu dans ton discours. Est-ce que ça vient rejoindre ce que t'as dit? Comment tu...
Oui, je pense que j'en rajouterais un troisième. Fait que la durée, oui, combien de temps? Combien de temps t'es là, puis combien de temps t'es conscient, la portée, qui y va, puis la troisième, c'est qu'est-ce qui s'y passe? Parce que une des questions, dans un des livres que j'avais lu sur l'enfer, puis sur comment les gens réfléchissent, la fille pose la question à son père, elle dit « Papa, comment est-ce que je pourrais avoir un party au deuxième étage quand je sais que mes amis sont torturés au sous-sol? »
Oui, je l'ai entendu.
Fait que ça, c'est une des images, c'est fort comme question. Puis bien sûr, la question, elle est honnête, mais elle est biaisée. C'est-à-dire que elle suppose une série de choses. Fait que mis comme ça, si on voit l'enfer comme un lieu de torture, il faut faire des fois, c'est quoi la différence entre un tourment, être tourmenté? Beaucoup de les gens aujourd'hui sont tourmentés. Quand on parle de l'anxiété, c'est une forme de tourment. Je veux dire, est-ce que les gens torturés et tormentés, c'est pas nécessairement la même chose non plus. Mais C.S. Lewis a écrit un excellent livre qui s'appelle toujours, c'est une allégorie comme il y a un peu les Chroniques de Narnia, qui s'appelle Le Grand Divorce, The Great Divorce, dans lequel il donne une image pour essayer de nous faire comprendre l'enfer comme une genre de vieille ville grise. Et je veux pas voler les punchs là, mais dans l'allégorie, il donne les gens qui vivent dans cette ville morne, peuvent prendre un autobus pour faire un tour et aller voir le ciel, qu'est-ce que ça a de l'air. Puis essentiellement, personne ne veut y aller. et donc, C.S. Lewis démontre que malgré le fait qu'il vit dans la pire place qu'il pourrait être, mais il ne voudrait tout de même pas être dans le royaume de Dieu. Puis il y a des réflexions intéressantes. Fait que cette question-là, qu'est-ce que c'est que l'enfer? C'est aussi une de ces questions-là. Fait que durée, oui. Porter qui est dedans, mais aussi, mais qu'est-ce que c'est exactement? Qu'est-ce qui s'y passe? Parce qu'effectivement, si c'est un lieu de souffrance, quel type de souffrance? Est-ce qu'on parle de souffrance physique? Mm-hmm. Ou est-ce qu'on parle de souffrance spirituelle? Donc, ça fait parler. Et encore une fois, si c'est des âmes qui sont mises dans un lieu physique, comment est-ce qu'une âme spirituelle peut être torturée par un feu physique? Donc, c'est un ensemble de questions que disons que la Bible ne répond pas nécessairement à toutes ces questions-là. Ça fait partie que des fois notre imagination ou le folklore ou même des fois les évangiles apocryphes, c'est-à-dire les écrits qui ont été faits ou dans les siècles après, comme par exemple l'Apocalypse de Pierre, qui va être lu jusqu'au 5e siècle dans certaines des églises, dépendamment des régions. Il n'a jamais vraiment été reconnu comme canonique, mais il était quand même lu. Et dans cette Apocalypse qui est immensément plus graphique que qu'est-ce qu'on a dans les détails de l'évangile canonique. Mais effectivement, t'as des gens qui sont menteurs, qui sont pendus par la langue, puis qui sont torturés. C'est fait un peu. Et t'as dans l'imagerie, je lisais avec certains étudiants dernièrement le mythe de Sisyphe, donc de Albert Camus. Et dans le mythe de Sisyphe, mais ça réfère à la mythologie grecque, entre autres, où Sisyphe qui essaie d'éviter la mort pendant un bout de temps, puis il joue une couple de mauvais coups à divers dieux, se fait finalement prendre. Et pour toute l'éternité, sa tâche, et on la retrouve une tâche semblable dans l'évangile, dans l'Apocalypse de Pierre, il doit monter un immense roche le haut d'une grande montagne. Et le moment qu'il arrive en haut, il ne peut jamais réussir à la laisser stationnaire. Elle retombe en bas. Et là, il dit quelque chose comme « bof ». Puis là, il redescend. Puis il doit remonter ça. Et c'est son châtiment pour l'éternité de monter cette... Fait qu'on a ces images-là qui viennent de la mythologie grecque, la mythologie romaine, du folklore, de Dante's Inferno, qui était écrit dans le temps du Moyen-Âge avec sa tour, puis les différentes sections de l'enfer et tout ça. Fait que il y a beaucoup à démêler, tu sais, avec ce diable, avec la fourche, puis avec les cornes rouges, puis... Fait que des fois, on amène tout ça. Et ces images-là sont reprises dans les films et les diverses choses aussi. Fait que quand les gens pensent à l'enfer, ils n'arrivent pas, même juste avec l'écriture, ils arrivent avec un ensemble de bagages qu'ils apportent dans cette réflexion-là et qui parfois imposent sur le texte d'un côté ou de l'autre.
C'est fascinant. Je me rends compte qu'il y a beaucoup de choses que maintenant j'ai besoin de démêler, dans le sens où qu'est-ce que je crois qui vient de la Bible versus qu'est-ce qui vient de la culture. Parce que c'est très, comme les images que tu décris, je les ai déjà entendues. Puis c'est très imagé, hein? On s'imagine beaucoup de choses quand on pense à l'enfer. Puis je suis curieuse de savoir ce que la Bible... on dit, comme, on a parlé de quatre positions, mais quelles sont les choses que, comme, on est un peu tous d'accord dessus? Est-ce qu'il y en a?
Écoute, je propose peut-être juste en rafale, peut-être regarder 3-4 versets.
OK.
Qui sont peut-être les plus clairs, juste pour nous mettre un peu, voici ce qu'on a tous à dealer avec.
Mm-hmm.
Parce que je pense que ça fait partie du problème. Des fois, c'est qu'on ne veut même pas dealer avec les passages. On réussit à les éliminer avant, dans notre réflexion. Ah, mais parce qu'un Dieu d'amour ne pourrait pas amener des gens, par exemple, passer une éternité dans un lieu loin de lui, où il y a des souffrances ou des choses comme ça, ben, je ne vais même pas réfléchir. Ça se peut tellement pas, j'accepterais pas un tel Dieu qu'à quelque part, on révise, puis on est bon pour accommoder la Bible à notre lecture avec laquelle on part. T'sais, on a tous des lunettes. Et la couleur de comment est-ce que nos lentilles sont colorées, mais s'ils sont roses, mais je vais voir du rose partout. S'ils sont bleus, je vais voir du bleu partout. Je donne un exemple. J'ai discuté avec un témoin de Jéhovah à un moment donné. Il ne croit pas à la divinité de Jésus. Et là, j'ai montré un passage dans l'Apocalypse qui disait « Moi, Jésus, je suis l'alpha et l'oméga. » Puis là, il est là, il regarde ça, puis il me dit « Je ne peux pas accepter ça. » Et je trouvais ça intéressant, hein, parce que je dis la façon qu'il phrasait « Je ne peux pas accepter, je le vois. » Je peux pas accepter ça. Et à quelque part, mais il est parti chez lui, puis après ça, il a réussi à notre cerveau, on appelle ça de la dissonance cognitive. Oui. Quand on voit quelque chose qui est à l'encontre de ce que l'on croit, ben on l'interprète d'une autre manière. Puis on fait ça dans tous les domaines, politique, familial, biblique, etc. Fait que, l'important, c'est de dire, ben la Bible doit être notre point de départ. En tant que protestant, tu sais, Semper Reformando, on va toujours être réformé par rapport à ce que la Bible nous dit. Puis d'être suspicieux envers notre culture ou envers notre façon de voir aujourd'hui. Puis ça va être pour ça qu'on a besoin aussi des théologiens des siècles passés pour être en discussion avec eux. Ils n'ont pas toujours raison, mais on n'a pas toujours raison nous autres non plus. Puis c'est pour ça que des fois, on a besoin de voir, hey, Tamlet, est-ce que notre culture ou notre époque a un angle mort que personne d'autre, on va dire que les autres n'avaient pas. Tu sais, je donne un exemple, je prêche un passage en Marc 2, là, où ça parle du sabbat en fin de semaine, mais les évangéliques post-Seconde Guerre mondiale sont essentiellement les seuls qui ne reconnaissent pas le jour du Seigneur comme quelque chose d'important dans l'histoire chrétienne. Les protestants, luthériens, presbytériens, anglicans, tout le monde reconnaît l'importance du jour du Seigneur, puis même de ne pas travailler le dimanche, des choses comme ça. Puis nous, mais c'est normal, on est sous la grâce, on ne se pose pas la question, mais t'as une minute, on ne se rend même pas compte que ça n'a pas été une nouvelle position dans l'histoire de l'Église, de juste mettre complètement le jour du Seigneur de côté. Fait que le regard historique va être aussi important de dire, OK, comment est-ce que les autres ont traité l'enfer? Puis est-ce que justement, est-ce que bon, comme la tradition catholique l'a fait, même si on n'est pas d'accord avec elle sur plusieurs points majeurs, mais après ça, comment est-ce que Luther, comment Calvin, comment divers l'ont traité, va nous aider aussi à dire, OK, si pas mal tout le monde est d'accord sauf moi, ben, je vais peut-être partir de départ pour dire, ben, OK, il faut que je me pose peut-être plus de questions pour être sûr que je ne suis pas en train d'imposer ma vision culturelle sur le texte. Fait que, peut-être trois passages là, rapidement. Un en Matthieu, chapitre 13, versets 49 à 51. T'as Jésus essentiellement qui donne une série de paraboles. T'as la parabole du semeur, la parabole de l'ivraie, la parabole d'un quelqu'un qui vient pêcher un ensemble de poissons. Puis, et là, à un moment donné, Jésus donne les réponses à ses disciples qui posent la question « De quoi tu parles? » Fait que là, ici, on n'est pas dans la parabole elle-même, on est dans l'explication que Jésus fait de la parabole. Puis ça, je pense que de départ, c'est une règle. Si Jésus dit quelque chose, ça pourrait être le canon dans le canon, dans un sens, c'est qu'on ne peut pas... Pour mettre de côté ce que Jésus dit, ça va falloir qu'on ait un argument méga béton, tu sais, dans un sens, là, pour pouvoir le mettre de côté. Mais ici, Jésus va nous dire en Matthieu 13, verset 49, « Il en sera de même à la fin du monde. » Fait que là, c'est assez clair. Il parle de la fin du monde. Même chose en Matthieu 25, quand il parle du jugement dernier, Jésus sur son trône, puis il juge les nations à la fin des temps. Fait que c'est pas mal clair que le contexte, c'est la fin du monde. « Il en sera de même à la fin du monde. Les anges viendront séparer les méchants d'avec les justes. Ils les jetteront dans la fournaise ardente où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Avez-vous compris toutes ces choses? Oui, répondirent-ils. » Fait que déjà au passage, Jésus assez clairement dit, ben, fin du monde, jugement dernier, sépare les bons et les méchants s'en vont dans une place qui appelle la fournaise ardente où il y a des pleurs, des grincements de dents. Ça, déjà, c'est un premier à dire, OK, Jésus semble parler de ça. Ce qui amène C.S. Lewis à dire, ben, ça serait difficile de passer à côté de ça. Matthieu 25, tu as une longue section, tu as ceux qui sont à sa gauche, ceux qui sont à sa droite. Et là, Jésus va lui dire, vous tous qui avez, vous ne m'avez pas nourri, vous ne m'avez pas donné à boire, vous n'êtes pas venu me voir en prison, etc. Et verset 41, alors il dira à ceux qui seront à sa gauche, allez-vous-en de moi, maudit, dans le feu éternel qui est préparé pour le diable et ses anges. Petite bit d'information intéressante, l'enfer n'a pas été créé pour les humains, du moins initialement, là, selon ce que le texte nous dit, mais une des raisons pour laquelle l'être humain va en enfer, c'est qu'il se ligue à quelque part avec le diable. Mm. Et la Bible nous parle d'une conception que Genèse 1, c'est plus comme épisode 4 dans Star Wars, Nouvel Espoir. Ça commence là. Pourquoi? Parce que t'as dans le jardin ou d'un monde parfait, un diable qui se retrouve derrière un buisson. T'sais. Jack l'Éventreur serait là, on se pose la question d'où est-ce qu'il vient. On sait que c'est pas le début de l'histoire. Job nous donne un peu plus le début de l'histoire où t'as Dieu qui discute avec Satan, puis tu vois justement il y a une game qui joue avec la vie de Job, puis la Bible termine avec Apocalypse qui donne la victoire de l'agneau sur le dragon ancien qui est le diable. Mm-hmm. Une des dernières choses qui est faite dans l'Apocalypse, c'est que le diable est jeté dans cet étang de feu qui avait été préparé pour lui puis pour ses anges. Fait que l'humanité se cadre bibliquement parlant dans une vision d'un combat cosmique entre le diable et Dieu, tout en sachant très bien qu'ils ne sont pas deux dieux. On ne croit pas au yin et au yang. Là. Donc, Dieu est vainqueur, le sera toujours. Mais où il a décidé de détruire cet orgueil du diable par l'humilité puis l'amour, où Jésus va créer cet être humain qui est inférieur aux anges, dans lequel il va les démontrer c'est quoi le véritable amour, va venir mourir pour eux. Tu sais, fait qu'il y a toute une séquence de choses. Car le Fils de l'homme est venu pour détruire les œuvres du diable, pour détruire la mort. Fait que la mort, l'enfer sont attribués au diable bien souvent. Puis si vous allez là, ben c'est parce que vous voulez bien y aller là. Vous êtes ligué contre le royaume de Dieu, puis vous êtes rébellé contre. Vous avez voulu être votre propre Dieu. Fait qu'en bout de ligne, ceux qui envoient là, c'est ceux qui se considèrent encore comme leur propre Dieu. Mm. Donc, fait qu'il y a toute cette réflexion-là. Fait qu'ici, en Matthieu 25, on sait que, du moins, on a les boucs, les brebis. Fait que déjà, il y a un langage imagé qui est là. Certains vont parler de Matthieu 25 comme un genre de mini-apocalypse à partir de 23 jusqu'à 25. Langage imagé, mais quand même encore, on a cette même image du feu, du jugement dernier, puis dans ce cas-ci, feu éternel, donc c'est quelque chose qui dure longtemps. Et peut-être un troisième qui ne parle pas de l'enfer en tant que tel, mais qui est en Luc chapitre 16, qui est la parabole, mais en fait, c'est jamais dit que c'est une parabole, au contraire de d'autres passages, et où Jésus, pourquoi est-ce qu'on pense que c'est pas nécessairement une parabole? Ça serait la seule parabole où Jésus utilise le nom de quelqu'un pour parler d'une histoire. Il y avait un homme riche, puis il y avait un homme pauvre qui s'appelait Lazare.
Ah oui.
C'est la seule fois qu'on utilise des noms dans ce qui serait une parabole, ce qui fait penser que c'est peut-être pas une parabole. Et là, on peut lire ici donc Luc chapitre 16, verset 19, il y avait un homme riche qui s'habillait de pourpre et de fin lin et qui chaque jour menait une vie joyeuse et une brillante vie. Mais un pauvre du nom de Lazare était couché devant son portail couvert d'ulcères. Il aurait bien voulu se rassasier des miettes qui tombaient de sa table, de la table du riche. Cependant, même les chiens venaient lécher ses ulcères. Le point ici n'est pas de démontrer, bon, c'est mal d'être riche, c'est mauvais d'être pauvre, bien que leur destinée va être entrecroisée, parce que de l'autre côté, ils vont tous les deux mourir. Et le pauvre mourut, fut porté par les anges auprès d'Abraham. Le riche mourut aussi et fut enterré. Dans le séjour des morts, en proie à une grande souffrance, il leva les yeux et vit de loin Abraham avec Lazare à ses côtés. Donc, souvent dans notre lecture évangélique aujourd'hui, on, à chaque fois qu'on voit séjour des morts, on l'interprète, souvent les commentaires bibliques l'interprètent comme pour vouloir dire la tombe. Mm. Pourquoi? Parce que le Christ descendu au séjour des morts, ce sera une des thématiques, je pense, importantes pour une réponse à l'enfer. Jésus est descendu au séjour des morts pour péter la baraque, annoncer sa victoire, libérer les captifs, etc. Mais ici, clairement, Lazare, ici, est dans un endroit conscient, dans le séjour des morts, dans un état intermédiaire. On n'a pas l'idée ici de l'enfer, on a l'idée de l'état intermédiaire. C'est la croyance des Juifs de l'époque aussi, que le séjour des morts est un endroit où Jésus va dans cette même lignée-là, ne le remet pas en question non plus. Le fait que Jésus ne remette pas en question la perspective sur quelque chose qui dénote l'après-vie semble montrer qu'il l'endosse. Dans le séjour des morts, en proie à une grande souffrance, il leva les yeux et vit de loin Abraham. Il s'écria, Père Abraham, aie pitié de moi et envoie Lazare pour qu'il tremble le bout de son doigt dans l'eau afin qu'il de me rafraîchir la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. Deux choses intéressantes, même en enfer, ou même du moins dans le séjour des morts où il souffre, le riche dit à Lazare quoi faire. c'est quand même dit à Lazare d'aller, et ça, wow. C'est une chose qui est intéressante. Ouais. Mais je souffre cruellement dans cette flamme. Et là, Abraham, répondit, mon enfant, souviens-toi que tu as reçu pendant ta vie des biens et que Lazare a connu les maux pendant la sienne. Maintenant, il est consolé ici et toi, tu souffres. De plus, il y a un grand abîme entre nous et vous, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ou de chez vous vers nous ne puissent pas le faire. Le riche dit, je te prie alors, père, d'envoyer Lazare chez mon père, car j'ai 5 frères. C'est pour qu'ils les avertissent afin qu'ils n'aboutissent pas eux aussi dans ce lieu de souffrance. Abraham lui répondit, ils ont Moïse et les prophètes qui les écoutent. Le riche lui dit, non, père Abraham, mais si quelqu'un vient d'entre les morts chez eux, ils changeront d'attitude. Alors Abraham lui dit, s'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne laisseront pas persuader, même si quelqu'un ressuscite. Sachant qui parle, c'est Jésus, bien sûr, il n'est pas encore mort et ressuscité, mm-hmm. mais on comprend que tout le subtexte là, qui est là, c'est de dire, mais si les gens... Un, Dieu a laissé assez d'évidence pour Bertrand Russell, disait, qu'est-ce que tu dirais devant Dieu, l'athée, qu'est-ce que si tu te retrouvais devant Dieu? Pas assez d'évidence. Jésus dit, il y a assez d'évidence, mais même si quelqu'un avait une évidence encore plus grande que celle de quelqu'un qui revient des morts, il l'écouterait peut-être pas davantage de toute façon. Mais, fait qu'on a même ici déjà dans l'état intermédiaire, qui est appelé du moins pour le côté qui sont pas avec les justes, avec Abraham, un lieu de souffrance. Et où le personnage qui est ici démontré par Jésus. Et c'est là que ça devient difficile de passer à côté de certaines conceptions de souffrance ou de certaines conceptions que c'est un lieu réel, parce que Jésus ne remet jamais en question... De la façon que Jésus en parle, ben si Jésus en parle de cette manière-là, ça va être difficile pour moi de sortir de ce que Jésus dit. Même si... Est-ce qu'on sait exactement c'est quoi de l'autre côté ou est-ce que c'est une parabole? Est-ce que c'est une parabole, c'est pas une parabole? C'est là que j'ai tendance à pencher un tout petit peu plus vers le côté que c'est pas une parabole à cause du fait que les noms sont mentionnés. Puis deux, mais même si c'était une parabole, ça change pas immensément grand-chose à l'histoire que Jésus, c'est quand même ça qu'il utilise pour parler de ce qui vient après. Mm-hmm. Puis comme un avertissement de croire Moïse puis de croire celui qui ressuscite. Pourquoi? Parce que les autres, dans le fond, qui sont les 5 frères de Lazare, mais représentent un peu le restant de l'humanité. Donc, dans tous les cas, fait que je te dirais, c'est quand même... Peu importe la position ou les réflexions, je te dirais, après ça, on peut aller dans l'Apocalypse, on peut aller ailleurs, mais c'est peut-être les passages les plus clairs parce qu'ils viennent de la bouche de Jésus lui-même.
Ce que je trouve curieux, c'est que tu mentionnes 3 passages dans les Évangiles et tu parles un peu d'Apocalypse aussi, mais on n'a pas parlé de l'Ancien Testament. Pourquoi est-ce qu'on ne parle pas du ciel puis de l'enfer dans l'Ancien Testament?
La question, c'est est-ce qu'on en parle ou est-ce qu'on en parle pas? C'est une excellente question. et il y a aussi, je crois, des bonnes réponses. Laisse-moi. Il y a un passage que Jésus va citer quand il va parler du thème de l'AGN. Donc, l'AGN était un lieu de la vallée d'Hymnon. On va tourner en Ésaïe. Je vais le retrouver, pardon, je l'avais ouvert tout à l'heure parce que j'avais anticipé qu'on s'en irait là aussi.
Je suis pas originale dans mes questions, hein?
Mais écoute, à un moment donné, les questions sont tu sais, c'est un gros sujet, mais c'est pas non plus un large sujet où les questions en finissent plus. C'est pas mal toutes les mêmes qui reviennent. Tu sais, Jésus va parler de la GN, littéralement, c'est la vallée de Hymnon. C'est un ravin au sud de Jérusalem où le feu était toujours allumé pour consumer les corps morts des animaux puis des criminels. Ouais. Fait quand il dit, tu sais, mieux vaut perdre, couper, tu sais, mettons, tu luttes avec le péché, il dit, mieux vaut couper un membre que de périr le corps tout entier dans la GN. C'est un des passages dans le sermon sur la montagne. Mais donc, il prend ça comme une image, mais ça nous vient, entre autres, il va citer Ésaïe. Donc, quand il va citer la GN, il va citer Ésaïe qui dit « Ils sortiront, Ésaïe 66, verset 24, « Ils sortiront et verront les cadavres des hommes qui se sont rébellés contre moi, car leur ver ne mourra pas et leur feu ne s'éteindra pas, ils seront en horreur à toute chair. » Donc, tu as cette notion en Ésaïe 66 qui vient, c'est un peu cette idée d'un un feu qui continue, et le ver, essentiellement, les vers, là, comme tu peux avoir dans ton corps, qui sont pas agréables, mais ne mourront pas. Tu as la même chose, mais pas la même chose, mais tu as aussi en Daniel, chapitre 12, qui est... je l'avais pas sur mon... à mon écran. Mais Daniel, chapitre 12, verset 1, va parler... Et Daniel est le livre qui parle davantage là, de la fin des temps et aussi un peu qu'est-ce qui se passe après dans l'éternité. Mais Daniel, chapitre 12, verset 1, va avoir cette espérance-là. Il dit « En ce temps-là se lèvera Michel », on parle dans le contexte de l'archange Michel, ici le grand chef, « celui qui tient bon en faveur des fils de ton peuple. Il sera un temps d'affliction tel qu'il n'y en a pas eu depuis que les nations existent jusqu'à ce temps-ci. » On s'écho beaucoup Matthieu 24, par exemple, dans le type de langage. « En ce temps-là, ton peuple échappera, quiconque sera trouvé inscrit dans le livre. » Beaucoup de ceux qui dorment dans la poussière se réveilleront, les uns pour la vie éternelle, mais les autres pour la honte, pour l'abjection éternelle ou pour l'horreur éternelle. Fait que même, fait que t'as dans l'Ancien Testament, l'argument est souvent utilisé en disant l'Ancien Testament ne parle pas de ça. En fait, l'Ancien Testament ne parle pas beaucoup de ça, mais il en parle quand même. Puis le fait ici en Daniel que quand il parle des temps de la fin puis qu'il parle justement de la résurrection, il va parler à la fois de la vie éternelle et à la fois de la mort éternelle où dans le fond ils vont vivre un offre, ils ressuscitent. Fait que, et ça c'était un des points de, souvent quand je discute avec des témoins de Jéhovah sur la question, les témoins de Jéhovah croient au sommeil de l'âme, qui est essentiellement que c'est une image souvent qui dit ben il s'endort avec ses pères. Fait que oui, c'est fait que le sommeil de l'âme, donc oui, corporellement, il ressuscite. Mais je trouve ça un peu drôle que tu meurs, fait que tu fais dodo, tu n'as aucune conscience, tu te réveilles, ah ha, tu es jugé pour l'éternité, puis tu te renvas, puis tu n'existes plus à nouveau. Fait que je trouve que ça va un peu à l'encontre de ce que le texte semble nous dire. Puis je te dirais qu'un autre point important aussi, c'est de regarder qu'est-ce qui est fait dans ce qu'on appelle l'intertestamentaire. C'est-à-dire que dans l'intertestamentaire, c'est quoi? Il y a 400 ans entre le dernier livre de l'Ancien Testament et le début du Nouveau Testament. Et tu as des livres comme Maccabée, Tobit, Siracide, je ne veux pas rentrer immensément là-dedans, mais ce qui est fait intéressant, Luther gardait les livres deutérocanoniques dans les Bibles protestantes, mais il les mettait à la fin, après l'Apocalypse, parce qu'on ne les reconnaissait pas comme canoniques, mais les protestants, historiquement, les ont reconnus comme utiles. Pourquoi? Parce qu'ils sont utiles pour nous aider à comprendre le contexte historique du Nouveau Testament, le contexte spirituel du Nouveau Testament aussi, en voulant dire le monde de Jésus, c'est essentiellement le monde de l'intertestamentaire. Donc, il y a une utilité, on ne les reconnaît pas comme parole de Dieu, mais ils ont été inclus dans les Bibles protestantes jusqu'au 19e siècle. Juste un tidbit intéressant, mais donc, un de ces livres intertestamentaire et 4 Maccabées. Et ce qui nous intéresse ici, c'est que tu as justement un langage qui est très, très semblable au Nouveau Testament. Donc, 4 Maccabées 12, 11, 12. « Tyran sacrilège, dit-il, et de tous les méchants, le plus impie, tu n'as pas eu honte après avoir reçu de Dieu les richesses et la royauté, de mettre à mort ses serviteurs et de torturer ceux-ci qui s'exercent à la piété. » Donc, il y a un roi méchant qui, quelque part, faisait souffrir les justes. « À cause de cela, la divine justice te réserve pour un feu plus vivace, pour un feu éternel et pour des tourments qui ne te lâcheront pas pendant toute l'éternité. » Fait que ça, cette chose-là, on a aussi en 4 Maccabées 13, le chapitre d'après, « Ne craignons pas celui qui ne donne la mort qu'en apparence, car grand est le combat de l'âme, grand aussi le danger. Il consiste pour ceux qui le transgressent ce commandement de Dieu en un tourment éternel. » Puis ici, on a pratiquement Matthieu, que Jésus, quand il dit « Ne craignez pas ceux qui tuent le corps, ne peuvent pas tuer l'âme, mais craignez plutôt celui qui peut détruire l'âme et le corps dans la géhenne » en Matthieu 10, 28. Fait qu'on a quasiment un mot pour mot, un des passages qui est utilisé dans l'intertestamentaire. Ça ne valide pas l'intertestamentaire, mais ça dit juste que Jésus, dans les vérités qu'il avance, ici, il est en ligne avec la compréhension juive de son temps aussi sur le jugement dernier. Et Jésus va reprendre ces images-là. Fait que, et dans les contextes, on peut aller dans l'étude de mots, je l'ai fait, mais le mot éternel, si on regarde juste le terme éternel, mais peut vouloir dire au siècle des siècles, c'est vraiment cette idée de majoritairement de sans fin. Pourquoi? Parce que même en Daniel 12, comme la vie éternelle, elle est sans fin, mais l'opprobre éternel, t'as un parallélisme entre les deux. Ça serait drôle qu'un soit éternel puis l'autre soit pas éternel dans le contexte. Sauf qu'après ça, là, on peut argumenter, mais une fois que je suis détruit, j'ai quand même une peine éternelle. Ça serait l'argument que l'annihilationnisme ferait. Puis c'est là de dire, ben, une fois que tu as commis ta peine, tu cesses d'exister, est-ce que ça serait pas... Puis c'est là qu'on peut rentrer dans ces débats-là. Mais le fait quand même que c'est un lieu où il y a une certaine souffrance, où, tu sais, une prison, là, c'est un des termes qui est utilisé là, pour le séjour des morts, notamment dans 1 Pierre 3. Tu sais, une prison, là, c'est un lieu de souffrance. Quand on y réfléchit, tu sais, tes envois où tu les coupes de leur liberté, puis ils sont pognés avec des gens qui sont essentiellement comme eux, puis quand ils vont dans la douche ou vont ailleurs, il faut qu'ils se checkent en arrière, puis tu sais, je dis, c'est juste, c'est un lieu où, mais essentiellement, t'as enlevé le bien. Fait que, est-ce qu'on peut faire peur ou pas avec l'enfer? Puis des fois, on veut pas parler de l'enfer parce qu'on veut pas que les gens se convertissent par peur, mais Jean-Baptiste n'a pas eu ce message-là.
Cette conversation est divisée en deux épisodes. Pour entendre la fin de notre conversation avec Jean-Sébastien Morin, la deuxième partie est déjà disponible là où tu écoutes J'ai des questions. J'ai des questions est un podcast de Convergence Québec et Pouvoir de changer étudiant. Merci d'avoir écouté cet épisode. N'oublie pas de t'abonner à ce podcast sur ta plateforme préférée pour ne pas manquer les prochains épisodes. Et pour plus de contenu, des photos, des citations et pour apprendre à se connaître, rejoins-nous sur Instagram ou Facebook en cherchant g.d.questions. On se retrouve bientôt pour répondre à une nouvelle question.